Oh, Henry, la jeune fille et l'habitude. Habitude, une tendance ou une aptitude acquise par la coutume ou par une fréquente répétition, dit le dictionnaire. Les critiques ont attaqué toutes les sources d'inspiration sauf une. Et c'est à celle-là que nous avons recours pour notre thème moral. Lorsque nous copions les vieux maîtres, les critiques s'empressent de rechercher les passages que nous avons reproduits. Lorsque nous nous efforçons de dépeindre la vie réelle, ils nous reprochent d'essayer d'imiter Henry George, George Washington, Washington Irving et Irving Bachelier. Nous avons écrit sur l'Ouest et sur l'Est, et ils nous ont accusés d'avoir plagié Jesse et Henry James. Nous avons laissé parler notre cœur, et alors ils ont fait allusion à des troubles hépatiques. Nous avons choisi un texte dans Matthieu ou bon, dans le Deutéronome, mais avant même que nous puissions transformer notre inspiration typographique, les prédicateurs étaient déjà en train de la foudroyer. C'est pourquoi, acculés dans une impasse, nous sommes contraints d'aller chercher notre sujet dans le vieux Mademécum, invulnérable, infaillible et moral, c'est-à-dire le dictionnaire. Miss Merriam était caissière chez Hinkle. Le restaurant Hinkle est l'un des plus grands de la ville basse. Il se trouvait dans ce que les journaux appellent le quartier financier. Chaque jour, de midi à 2 heures, le restaurant Hinkle se remplit de clients affamés, employés, dactylos, courriers, propriétaires d'actions de mines, animateurs, inventeurs, et aussi de gens qui ont de l'argent. L'emploi de caissière chez Hinkle n'était pas une sinécure. Le matin, à l'heure du petit-déjeuner, il se débitait dans le restaurant un nombre considérable de tasses de café, de toast et d'œufs au jambon. Mais au repas de midi, le débit devenait un torrent. On pouvait dire que la clientèle de Hinkle pour le breakfast constituait un contingent, mais celle du déjeuner était une horde. Miss Merriam siégeait sur un tabouret derrière un petit bureau protégé sur 3 côtés par un haut et fort grillage en fil de cuivre. Vous passiez votre addition et votre argent par un petit guichet qui s'ouvrait dans le treillage et vous attendiez la suite, tandis que votre cœur battait la breloque. Car Miss Merriam était à la fois belle et capable. Elle pouvait vous rendre $1.55 sur un billet de $2 et refuser en même temps une demande en mariage avant que vous puissiez. Au suivant, ça y est, tant pis pour vous. Oh, s'il vous plaît, ne poussez pas. Elle ramassait votre argent et votre sourire avec le même sang-froid. Vous rendez la monnaie, vous donnez le coup de foudre et la répartie, et vous appréciez à 20 sous près en moins de 30 ans qu'il ne faut pour saler un œuf avec une des salières du restaurant. Il existe une antique et noble allusion à la lumière crue qui inonde un trône. Eh bien, la lumière qui inonde la cage derrière laquelle est assise la jeune caissière est aussi assez crue. C'est une compensation pour les beefsteaks qui sont généralement trop cuits. Tous les clients mâles du restaurant Hinkle, depuis le saute-ruisseau jusqu'au dernier des courtiers, adoraient Miss Merriam. Chaque fois qu'ils payaient leur addition, ils employaient toutes les ruses connues de l'art cupidonesque pour lui faire en même temps la cour. À travers les mailles du grillage, c'était une volée continuelle de sourires, de clins d'œil, de compliments, de tendres vœux, d'invitations à dîner, de soupirs, de regards langoureux et de joyeux bavardages, que Miss Merriam recevait sans sourciller et vous renvoyait ponctuellement. Il n'y a pas de situation plus privilégiée que celle d'une jeune et jolie caissière. Elle trône dans sa cage comme une reine à la cour du commerce. Elle est la duchesse des dollars et des devoirs, la comtesse des compliments et de la monnaie, la prima donna de l'amour et du déjeuner. Elle vous rend à la fois une fausse pièce et un sourire, et vous partez sans vous plaindre. Vous comptez les deux ou trois mots aimables qu'elles vous jettent comme des avares contre leur trésor, et vous empochez votre monnaie sans regarder. Peut-être le blindage qui l'entoure multiplie-t-il son charme. En tout cas, c'est un ange encore sage, un ange immaculé, soigné, manucuré, séduisant, vif, alerte, à l'œil brillant, une psyché, une circé, et une athée en un seul corps qui vous prend votre vrai argent après avoir donné votre faux filet. Les jeunes gens qui venaient rompre le pain chez Inkle ne quittaient jamais la caissière sans lui avoir adressé quelques badinages ou quelques compliments. Beaucoup d'entre eux allaient même plus loin et laissaient échapper des allusions prometteuses de billets de théâtre et de chocolat. Les hommes plus âgés parlaient ouvertement de fleurs d'oranger et ne criaient pas de flétrir ces pétales tentateurs par des allusions consécutives à des appartements dans Harlem. Un courtier qui avait été coincé dans une spéculation sur le cuivre demandait la main de Miss Meriam au moins deux fois par repas. Pendant l'heure de la pointe, au déjeuner de midi, la conversation de Miss Meriam, tandis qu'elle encaissait et rendait la monnaie, s'exprimait à peu près dans les termes suivants. « Bonjour, monsieur Skins. Ah, vous désirez, monsieur ? C'est bien naturel, merci. Oh, je vous en prie, restez correct. Alors, le joli. 10, 15, 20. Oh, allez-vous-en maintenant, ils vont vous chiper votre casquette. Vous ne pardon, recomptez, s'il vous plaît. Oh, il n'y a pas de quoi. Votre ville, oh, non, merci, non. Quant au cinéma, je suis allé voir Carter mercredi soir avec M. Simmons. Oh, excusez-moi, je croyais que c'était une pièce de 25 cents. 80 et 20 font 1 dollar. Ah, alors vous aimez toujours le jambon au chou. Je vois, Billy. À qui parlez-vous? Attendez un peu. Vous allez recevoir ce que vous méritez. Oh mince, M. Bassett, vous dites toujours des blagues. Non. Eh bien, peut-être que je finirai par vous épouser un jour. 3, 4 et 6, 10. Oh, s'il vous plaît, gardez ces remarques pour vous, monsieur. Vous dites 10 cents? Oh, excusez-moi, j'avais lu 70 sur l'addition. Oh, peut-être que c'est un 1 au lieu d'un 7. Oh. Oh, alors, vous m'aimez comme ça, monsieur Saunders? Il y en a qui préfèrent l'ondulation martelle, mais on dit que cette coiffure, la ninon, va très bien, oh, très délicat. Oui, et 10 font 50. Oh, dépêchez-vous un peu, jeune homme. Vous n'êtes pas à Luna Park, ici. Hein? Eh bien, ma fille, est-ce que ça ne va pas bien? Oh, non. C'est pas trop froid, c'est une blouse légère. Ils sont très dans la mode, cette saison. Attendez un peu, s'il vous plaît. C'est la troisième fois que vous essayez de... De quoi? Oh, vous savez, cette pièce en plomb est une vieille copine à moi. 65, monsieur Wilson? Mais vous avez dû être augmenté. Ah, vous avez aperçu dans la 6e avenue cet après-midi, monsieur de Forêt. Oh, très chic. Qui est-elle? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je ne veux pas de cette pièce-là. Nous ne sommes pas en Amérique du Sud, ici. Oui, je préfère le music hall. Vendredi. Ah, mille regrets, mais le vendredi, je prends ma leçon de jiu-jitsu. Jeudi, alors. Merci, c'est la 16e fois qu'on me dit ça depuis ce matin. Mais je finirai par croire que je suis belle. Allez, fermez ça, voulez-vous. Mais pour qui me prenez-vous? Ah, oh, tiens, monsieur Westbrook, vous croyez vraiment? Quelle idée! 35 et 5, 40 et 10, 50, merci beaucoup. Mais je ne me promène jamais en automobile avec les messieurs. Ah, il y aura votre tante. Ah, c'est différent. Nous verrons. Oh, je vous en prie, ne vous excitez pas. Votre addition était de 15 cents, je crois. Mettez-vous sur le côté et attendez un instant. Hello, Ben. On vous verra jeudi soir. Il y a un monsieur qui m'a envoyé une boîte de chocolat. Et 55 et 5, 60 et 40 cents. Un certain jour, vers le milieu de l'après-midi, un vieux, riche et excentrique banquier eut une syncope au moment où il passait sur le trottoir devant le restaurant Hinkle pour aller prendre son tramway. Un banquier riche et excentrique qui se déplace en tramway, passons, il y en a d'autres. Un samaritain, un pharisien, un homme et un policeman qui se trouvèrent là les premiers, saisirent le banquier McRumsey et le transportèrent dans le restaurant Hinkle. Lorsque l'antique et indestructible financier ouvrit les yeux, il aperçut une vision merveilleuse qui se penchait sur lui avec un sourire tendre et compatissant, tout en lui baignant le front avec du bouillon Viandox et en lui réchauffant les mains avec quelque chose qu'elle avait pris sur un réchaud. M. McRumsey soupira, perdit un bouton de son veston, jeta sur sa belle infirmière un regard de profonde gratitude et reprit ses esprits. Que tous ceux qui s'attendent maintenant à l'éclosion d'un roman se rendent dans la bibliothèque gratuite. Non, le banquier Ramsay avait une femme âgée et respectée, mais ses sentiments pour Miss Merriam étaient tout paternels. Il eut avec elle un entretien d'une demi-heure auquel il sembla prendre le plus vif intérêt. Pas le même genre d'intérêt que celui qui assaisonnait ses conversations d'affaires. Le lendemain, il amena Miss McRumsey pour la lui présenter. Le vieux couple jugeait seul, il n'avait qu'une fille mariée qui habitait à Brunswick. Bref, la belle caissière gagna le cœur du bon vieux couple. Ils revinrent chez Hinkle maintes et maintes fois et ils invitèrent la jeune fille à venir les voir dans leur vieille mais splendide maison de l'une des 70e rues. Est. La beauté séduisante de Miss Merriam, sa douce franchise et son cœur impulsif les emballèrent. Ils ne cessaient de répéter que Miss Merriam rappelait tellement la fille qui les avait quittés. Celle-ci, la matrone de Brooklyn, née Ramsay, avait l'aspect d'un Bouddha et un visage semblable à l'idéal d'un photographe d'art. Miss Merriam était une combinaison de courbes, de sourires, de feuilles de rose, de perles, de satin et de réclames de lotion capillaire. Telle était la fatuité des parents. Un mois après avoir ainsi captivé le vieux et digne couple, Miss Merriam remit à Hinkle sa démission de caissière. « Ils vont m'adopter, » dit-elle au restaurateur. « Oh, ce sont des drôles de vieux types, mais c'est la crème des gens. Et si vous voyez leur palais ?» Non, Hinkle, c'est pas la peine d'insister. Maintenant, je suis destiné à m'asseoir dans des limousines, à épouser un duc au moins. Pourtant, ça me fait de la peine de quitter la vieille cage. Il y a si longtemps que je suis caissière que ça va me sembler drôle de faire autre chose. Ça me manquera de rembarrer un peu tous les types qui viennent payer leur beefsteak. Mais je veux pas laisser passer cette occasion-là. Ils sont tellement chics. Oh, je suis sûr que je vais mener une vie épatante. Vous me devez 9,62 $ pour la semaine. Adieu, Hinkle. » Et c'est ainsi que Miss Merriam devint Miss Rosa McRumsey. Et elle fit honneur à la transition. La beauté n'est qu'à fleur de peau, mais les nerfs se trouvent tout près de la peau. Les nerfs... Mais ici, vous m'obligerez en relisant la citation qui est au début de cette histoire. Les McRumsey répandirent l'argent comme du petit lait pour polir et raffiner leur fille adoptive. Ils en inondaient les couturiers, les modistes, les maîtres à danser et les précepteurs. Miss Rosa se montrait reconnaissante, aimante et tâchait d'oublier Hinkle. Et pour bien mettre en lumière les facultés d'adaptation de la jeune fille américaine, disons qu'Hinkle avait presque complètement disparu de son esprit et de sa conversation. Quelques personnes se rappelleront peut-être la visite que le comte de Hillsbury fit en Amérique à la 70e rue. C'était un comte de la bonne moyenne, sans dette, et il n'attirait pas beaucoup l'attention. Mais tout le monde se souvient sûrement de la soirée où les filles de la bienfaisance donnèrent leur fête de charité dans l'hôtel Waldorf Astoria. Vous y assistez certainement, et même vous avez envoyé un petit mot à votre ami sur du papier à laine de l'hôtel, juste pour lui montrer que vous étiez là. Non, très bien, oh, alors ça devait être justement le soir où le bébé était malade. À la fête de charité, les Mac Ramsay attiraient particulièrement l'attention. Miss Rance Ramsay était exquisement belle. Le comte Hittlesbury s'était montré très empressé auprès d'elle depuis qu'il était venu jeter un coup d'œil sur l'Amérique. L'on supposait généralement que l'affaire allait voir une conclusion définitive à la fête de charité. Après tout, un comte est aussi bon qu'un duc, et même meilleur. Sa situation est peut-être aussi moins élevée, mais par contre, ses dettes le sont aussi. Notre jeune caissière présidait à l'un des comptoirs. Elle était là pour vendre à des prix exorbitants des articles sans valeur aux snobs et aux riches. Les bénéfices de la vente devaient servir à offrir aux pauvres enfants des taudis un dîner de Noël. Dites, vous êtes-vous jamais demandé où ils prennent les 364 autres ? Miss Marks Ramsay, belle, palpitante, excitée, charmante, radieuse, voltigeait derrière son comptoir. Elle était protégée du public par une sorte de grillage en bas d'un laiton, dans lequel s'ouvrait un petit guichet. Soudain, voici le comte qui s'avance, assuré, délicat, impeccable, l'air admiratif. Il s'avance et face au guichet ouvert. « Vous êtes vraiment charmante, savez-vous, sur mon honneur. Vous êtes charmante, ma chère, » dit-il d'un ton caressant. Miss Mac Ramsay se tourna brusquement. « Bon, fermez ça, » dit-elle d'un ton froid et vif à la fois. « Mais à qui croyez-vous qui vous parlez ? Votre addition, s'il vous plaît, ô Seigneur !» L'assistance eut soudain l'impression qu'il se passait quelque chose et se précipita vers le comptoir. Le comte Hittlesbury se tenait là immobile, en caressant sa moustache blonde d'un air intrigué. « Miss Mac Ramsay s'évanouit !» expliqua quelqu'un.